énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
question pratique,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. En cette belle journée de smog à Montréal, c'est le retour, enfin, vous l'attendiez tous, de délirium environnemental. Donc, on va vous présenter notre nouveau concept d'émission Revue et corrigée. Une heure pour vous parler d'actualité environnementale, c'est un grand défi. Ensuite, on fait le point sur l'été 2005 et les gars Patrick Bonin, Nicolas Mainville et Nicolas Milo partagent leur regard sur l'été 2005. Un été chaud, on s'en doute. Et bien sûr, on va terminer par nos coups de cœur. Coup de masse et au calendrier cette semaine. Bien le genre de micro pour vous divertir, mais surtout pour vous informer, en fait, je l'espère, entouré de l'équipe magique au complet Délirium Environnemental, pour tous ceux qui nous découvrent, c'est un magazine radio d'information en environnement. Hey, c'est déjà notre quatrième année qu'on entame, messieurs, chapeau et bonjour!
Bonjour!
Bonjour.
Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, Délirium Environnemental, c'est d'abord avant tout une équipe magique, donc Nicolas Mainville, notre biologiste en chef, qui revêt maintenant plusieurs autres chapeaux. Patrick Bonin, expert sur les questions d'énergie, de climat, de transport, il vous parlera ensuite de Kyoto. Ce n'est qu'un de ses chapeaux, il en a plusieurs, je le vois sceptique devant ma présentation.
En effet, d'ailleurs, j'aurais peut-être porté un chapeau, parce que ça fait très masculin les intervenants autres que toi, donc...
Je vais parler avec une petite voix cette année. Mauvaise idée, Patrick, je ne le recommande pas. Et finalement, Nicolas Milo qui a accouché cet été, mais en fait pas lui et sa copine.
Ça
félicitations, nouveau papa.
Merci.
On est content de te retrouver. On est content aussi que tu aies trouvé une gardienne aujourd'hui.
Ouais, ça va être difficile, ça. Hein?
C'est les nouveaux défis.
On est fiers de toi, Nicolas. Merci.
Ouais. Donc, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas Délirium Environnemental, comme je le disais tout à l'heure, c'est un magazine radio d'information en environnement, mais c'est également, il faut le savoir, un site Internet que vous pouvez retrouver au www.radiodelirium.net, ainsi qu'une cyberlette hebdomadaire qui peut en fait vous servir de veille médiatique en environnement. Hey, c'est beaucoup de choses quand même, Délirium Environnemental. Pour nous rejoindre sur la page du site Internet, vous avez la section Contact. Vous allez trouver toutes nos coordonnées pour nous envoyer vos questions, suggestions, commentaires, félicitations et pourquoi pas vos chèques. C'est faux.
Et ce qui est intéressant aussi cette année qu'il faut mentionner, c'est que maintenant qu'on est en direct de CBL, les gens peuvent nous appeler et nous déranger en studio.
C'est bien vrai. Pour nous rejoindre donc à CBL, c'est le 526-2581 et le numéro de poste, non, c'est faux, c'est tout à fait faux. On m'indique que c'est plutôt le 526-1767. Ça veut dire que vous pouvez nous contacter directement en studio. Mais je vous dis tout de suite, on a juste une heure et comme on se propose de faire un regard sur l'été 2005, un été chaud s'il en fut un, on n'aura peut-être pas le temps de prendre vos appels aujourd'hui. On se reprendra, c'est promis. Alors donc, on va partager notre regard sur l'actualité environnementale cet été. Journée de smog, les gars, je sais que ça vous inspire. Si tous ceux qui n'ont pas encore compris que c'était mauvais pour la santé, je vous invite à prendre une grande respiration par le nez et sentir les particules fines vous chatouiller la narine. C'est mauvais pour la santé. En plus, paraît-il que ça fait engraisser. On n'aura pas le temps d'en parler. Donc, si vous voulez, j'arrête tout de suite de dire des niaiseries. On s'arrête quelques instants pour revenir avec le regard de Patrick Bonin sur ce qui l'a frappé, lui, cet été en environnement.
This is it.
De retour à Délirium Environnemental en cette première de la saison automne 2005. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons. Je vous rappelle qu'habituellement, on fait une revue de presse, revue de l'actualité, mais considérant l'ampleur du volume, du plein de nouvelles qui ont paru sur la question d'environnement ici au Québec et ailleurs dans le monde autour de la planète, c'est impossible de faire une revue de presse exhaustive de tout ce qui s'est passé cet été. Conséquemment, on a décidé d'y aller à la hauteur, ou plutôt selon notre cœur, et de vraiment partager, peu importe la l'angle qu'on veut prendre ces dossiers qui nous préoccupent. Alors, Patrick Bonin, ça me surprend, tiens, tu vas nous parler de changement climatique, un été chaud, oui, chaud, physiquement, il a fait très chaud, mais un été chaud aussi dans le dossier des changements climatiques, de l'énergie, du transport et de Kyoto.
Et c'est pas la première fois, c'est pas les premières nouvelles qu'on a en changement climatique, c'est pas les premières recherches non plus, mais on a quand même certains événements marquants cet été qui ont, je dirais, consacré tout simplement le changement climatique comme étant une préoccupation quotidienne à tous les jours. Parmi, entre autres, ces nouvelles qui sont passées sous mes yeux, j'ai retenu cette nouvelle où on parle des 11 académies des sciences, donc 8 académies des sciences du G8, et on rajoute à ça la Chine, l'Inde et le Brésil, et donc vous comprenez que c'est des pays industrialisés, et l'Académie des sciences, c'est très scientifique, donc c'est pas politique, et ils ont pris une position formelle en disant justement que les changements climatiques présentement, eh bien, il fallait des gestes politiques, il fallait absolument qu'on enclenche immédiatement justement des actions concrètes pour contrecarrer, si vous voulez, cette menace globale. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, même l'Académie des sciences des États-Unis s'est prononcée et veut pas, ça sent dans les oreilles de tous les États-Unis qu'ils avaient peut-être bouché et suite à Katrina, peut-être qu'également ça a contribué au déblocage des oreilles, devrais-je dire. Suite à ça, évidemment, on a eu une panoplie d'études cet été, on se le cache pas, c'est pas les premières études qu'on voit à ce sujet. Évidemment, on parle de fonte du pergélisol, le sol gelé de façon permanente dans le nord, en Sibérie, des superficies complètement hallucinantes. Là, on parle de quelque chose comme 1 million de kilomètres carrés. Et cette problématique est particulièrement inquiétante du fait que dans le pergélisol, il y a beaucoup de méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Donc, si ce sol dégèle, eh bien, les gaz sont relâchés. Ça peut créer ce qu'on appelle des rétroactions positives ou, si vous voulez, amplifier la problématique des changements climatiques.
Quand tu parles de méthane, Patrick, je vais juste t'arrêter deux petits secondes. On parle de 70 milliards de tonnes de méthane qui sont engouffrées dans ces pergélisols en Sibérie. Donc, évidemment, la fonte de ce pergélisol enclencherait un phénomène exponentiel de réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit.
Toutes les altérations, j'imagine, au niveau des courants marins, parce que si les pergélisols fondent, j'imagine que ça libère également de l'eau qui peut peut-être augmenter.
Possible.
On n'ira pas dans tous ces détails-là.
Ouais, donc, ce qui risque d'être plus inquiétant en ce sens, parce que tu as tout à fait raison de souligner ça, c'est probablement, oui, le courant marin, également l'augmentation du niveau de la mer, avec entre autres des études, vous avez peut-être vu passer les études de Greenpeace cet été au niveau du Groenland et des glaciers qui reculent, en fait, depuis 2001, qui auraient reculé de 4,5 km, tandis qu'ils n'avaient pas bougé depuis 1972. Et ça, c'est quand même pas mal partout sur la planète que ça se passe.
Donc, plusieurs grosses études viennent confirmer que les changements climatiques sont bel et bien un phénomène duquel il faut prendre compte. Est-ce que ces belles études-là et ces belles recherches trouvent écho ou est-ce qu'elles se font entendre sur les bonnes scènes?
Tout dépend. Où est-ce qu'on regarde, en fait? Si on regarde peut-être du côté de nos États-Unis préférés, soit ceux du Sud, bien sûr, quoique, non, on oublie cela. Au niveau des villes aux États-Unis, ils ont pris en fait, c'est les maires des villes qui se sont pris en main et qui ont dit, nous allons tenter de respecter les objectifs de Kyoto. Donc, les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est très intéressant parce que, justement, ça va à l'encontre de M. Bush et de la doctrine américaine. Donc, ça nous rappelle que 50% des gens n'ont pas voté pour Bush, entre autres. Donc, on met de la pression là-dessus. Par contre, un petit bémol là-dessus un peu désolant. Évidemment, on a des villes au Québec. La ville de Montréal, ça commence à peine peut-être à envisager de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La seule grosse nouvelle que je retiens cet été, c'est la rue Notre-Dame, où encore une fois, on veut construire, en fait, camoufler une autoroute en disant que c'est une semi-autoroute ouverte le jour avec des lumières vertes en tout temps et le soir qui serait différent. Mais c'est pas dans la bonne direction, ville de Montréal. Donc, un blâme, déjà, mon premier blâme de la saison, la ville de Montréal, et j'attends toujours votre piste cyclable au centre-ville que je n'ai pas vu se faire construire cet été et avec grande tristesse, bien sûr.
Été particulier aussi à Montréal dans le dossier des changements climatiques et plus particulièrement de la pollution en milieu urbain. On a eu un nombre record de smog qu'on a atteint cette année.
Ça a été assez intense, en fait, Patrick. Je veux juste seconder. Je sais que c'est ton bloc, mais j'ai des chiffres ici assez accablants. Le 8 août dernier, on était déjà rendu à 22 jours de plus de 30 degrés. Vous savez que Toronto a battu tous les records avec 39 jours au-dessus de 30 degrés. Et ce qui accompagne souvent les hautes températures, malheureusement, c'est les épisodes de smog, comme aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait un peu de smog sur le bord du nez.
Ah, excuse-moi, là.
Et on parle de 33 épisodes de smog à Montréal, 45 jours de smog à Toronto. C'est un record jamais établi. Félicitations, Toronto, vous avez réussi. Alors, évidemment, quand on parle d'épisodes de smog, on parle de répercussions sur la santé humaine. Lorsqu'on parle de ces épisodes-là, c'est dépasser les limites acceptables pour la santé.
Et peut-être juste rappeler, justement, qu'on a eu des études, encore une fois, cet été, qui nous rappellent que Ça fait environ 800 personnes par année à Toronto et autant à Montréal qui meurent des causes du smog. Donc, on voit beaucoup de publicité sur ne conduisez pas sous ou je ne sais quoi. Et oui, ne le faites pas et c'est important d'en faire, mais c'est une autre facette qu'on oublie. Il y a des morts liées à ça sans calculer toutes les personnes qui subissent des contre-coups du fait qu'ils ont des systèmes immunitaires plus faibles ou système cardiovasculaire, justement. On pense aux vieilles personnes, les jeunes enfants, les personnes qui souffrent d'asthme. Donc, c'est des morts, oui, mais c'est beaucoup plus comme phénomène de société. Et il faut agir!
Donc, c'est vrai que le smog, c'est un phénomène absolument marquant de l'été 2005 ici à Montréal et au Québec partout, parce que justement, Nicolas Mainville m'expliquait au début que souvent, ça ne s'attarde pas seulement au-dessus d'une grande ville, mais ça s'étend maintenant de plus en plus loin et ça arrive du sud, mais ça s'étend de plus en plus loin, parfois même jusqu'à l'Abitibi.
Ah, c'est impressionnant. Vous regardez les chiffres sur le site de la ville de Montréal, le site d'Environnement Québec, et vous avez l'Abitibi en ce moment qui est dans le rouge. La qualité de l'air est vraiment mauvaise. L'indice de qualité ce matin était de 88, ce qui est pitoyable. En fait, 50 est déjà une limite acceptable pour la santé. On est à 88. C'est pas encourageant.
Tout le monde, une bonne grande respiration de smog par le nez. Patrick Bonin, donc on poursuit sur la question des énergies, changement climatique. Ici, on s'est doté au Québec d'un plan stratégique pour atteindre certains objectifs ou non, ça branle toujours dans le manche?
Et bien sûr, par la stratégie au niveau énergétique, là, ça inclut également toute l'utilisation du pétrole qu'on en entend beaucoup parler par les temps qui courent, et également la production d'électricité, bien sûr. On l'attend encore, cette stratégie énergétique. En fait, ça va être une ébauche de stratégie énergétique qu'on était censé avoir au printemps et on ne l'a pas. Et devinez probablement pourquoi, parce que dans les consultations parlementaires qu'on a fait l'hiver dernier, eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'on a tout simplement évacué la question transport. Donc, je suppose que le gouvernement ne voulait pas sortir une stratégie où on ne parlait pas de la question du pétrole avec des prix hallucinants, en fait, qu'on n'a jamais atteint ou presque au niveau du coût de pétrole et que tout le monde en parle, c'est les premières pages de tous les journaux. Donc, c'est à suivre cette stratégie-là. Je vous parlerai pas de la stratégie sur les changements climatiques parce que ça va revenir pendant toute l'année, mais peut-être garder en tête qu'on n'en a pas plus de stratégie sur les changements climatiques au Québec et ça dans un contexte où au Canada, on ne sera pas capable de respecter nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a signé évidemment avec le protocole de Kyoto.
Bien, j'en retiens que l'été 2005 en termes d'études aurait été très intéressante en termes de résultats concrets au niveau des politiques. Comme d'habitude, ça traîne la patte, ça tire de l'aile, comment dire, ça brande dans le manche finalement. Par contre, plusieurs dossiers à garder à l'œil cet automne, notamment les élections municipales, où est-ce que ces choses-là vont être discutées, mais également le plan de développement durable de la ville de Montréal, où est-ce que les citoyens vont être invités à participer. Restez en onde, je vous en reparle un peu plus tard. Écoutez toujours Delirium environnemental, le retour pour l'automne 2005, avec beaucoup de plaisir, toute l'équipe en studio, d'être de retour. Bravo tout le monde, je suis heureuse de vous voir. Donc on partage, plutôt que de faire une revue de presse exhaustive de l'été, ce qui aurait été gigantesque et ce qui nous aurait pris à peu près une semaine complète, 24 heures sur 24, à vous divertir de nos belles voix douces à la radio, on a préféré plutôt partager nos regards sur l'environnement, surtout sur des dossiers précis. Nicolas Mainville, tu as passé beaucoup de temps en forêt, c'est un dossier qui tient à cœur. Semble-t-il que c'est un dossier où est-ce que aussi ça a été un été
Ça a bougé beaucoup en forêt, puis oui, je me suis attardé à cette question-là, ça me tient vraiment à cœur, et puis c'est clair qu'on est dans une été assez spéciale, puisque c'est la première été après le dépôt du rapport Coulombe, vous savez, cette fameuse commission d'enquête, commission d'études, qui a dit, écoutez, il y a probablement surexploitation de la forêt, donc conséquence de ça, diminution de 20% de la possibilité forestière, vous avez vu ça passer dans les nouvelles.
On dit probablement, ou il y a tout simplement surexploitation de la forêt, disons les vraies choses.
Tout dépend si on travaille pour l'industrie ou pour la science ou pour autre. Alors, l'interprétation est ce que l'on en veut. Les conséquences sont les mêmes. On a demandé de diminuer de 20% l'exploitation sur le terrain. En fait, ça dépend de quelle région on est. Mais bon, cette diminution-là a provoqué quand même une accélération des coupes dans certaines régions. Et déjà au mois de juin, au mois de mai, il y avait plusieurs groupes environnementaux en Mauricie, entre autres, environnementaux, merci, en Mauricie, entre autres, qui disaient, écoutez, les compagnies sont en train d'accélérer accélérer beaucoup les taux de coupe en réaction à ces nouvelles applications-là. Mmh. Parce que, bon, entre autres, parce qu'on a, des banques de réserve de bois à exploiter, qu'on appelle le backlog en jargon. Et puis, c'est des volumes de bois qu'on n'a pas exploité dans les années antécédentes et puis qu'on exploite. Donc, on a déjà observé ça sur le terrain au mois de mai, mois de juin. Et puis, qu'est-ce qui arrive au mois de juin? Eh bien, c'est les feux de forêt. Vous vous rappelez de ça? Une rafale de feux de forêt qui ébranle le Québec. En fait, on a battu plusieurs records. Vous savez que la moyenne annuelle dans les 10 dernières années au Québec, c'est 812 feux. Eh bien, on en a eu exactement 1200 jusqu'à date. Et il y en a encore en ce moment en Abitibi qui brûle. Eh bien, c'est une superficie qui est 4 fois supérieure à celle de la moyenne annuelle. On parle de 395 000 hectares de forêt. Ce qui est pas peu, ça nous a déjà coûté 60 millions de dollars seulement pour traiter ces feux-là. Avec l'augmentation du coût de l'essence, imaginez qu'est-ce qu'on est en train de parler. Donc, le feu a été marquant, mais c'est surtout la réaction de l'industrie et du gouvernement par rapport à ces feux-là qui a été très marquant parce que malgré qu'on avait imposé des réductions de 20%, eh bien, le feu était une porte ouverte pour aller exploiter ce fameux bois qui venait de brûler, ce gaspillage de la ressources, comme a été si bien dit par tous les ministres possibles et impossibles, par tous les médias, parce qu'on considère vraiment la forêt brûlée comme un déchet, ce qui est malheureusement loin d'être le cas. Vous savez que le passage d'un feu en forêt boréale, surtout, bien, c'est quelque chose qui se passe depuis 10 000 ans, donc c'est un système qui est adapté à ça. Le passage d'une multifonctionnelle, une grosse machine qui va extraire le bois, a beaucoup plus d'impact. Et malheureusement, lorsque les machines rentrent sur le terrain pour récupérer le bois, c'est des coupes de récupération qu'on appelle, eh bien, elles ne sont pas soumises à n'importe quelles règles qui sont normalement dans le RNI, le règlement des normes d'intervention en forêt.
Qui ne sont pas nécessairement respectés pour autant.
Exactement, puisqu'on n'a pas très beaucoup d'inspecteurs sur le terrain. Hein?
Mais bon, il n'y en a pas très beaucoup.
Donc, l'état de la forêt québécoise demeure inquiétante à tes yeux, puisque notamment, suite au rapport Coulombe, on n'a même pas encore commencé à peut-être considérer appliquer la demande de réduction de 20%.
C'est ce qui est inquiétant, c'est parce qu'on a lancé des gros ballons. Évidemment, la population est extrêmement inquiète parce qu'on parle de plusieurs jobs. Vous savez qu'il y a 150 000 emplois directs relié à l'industrie forestière. Et puis, le gouvernement tarde à amener des mesures compensatoires pour justement ces nouvelles décisions-là. On n'a même pas encore choisi le chef forestier, celui qui va diriger les futures coupes. Mais en plus, ce qui est inquiétant comme dossier, c'est le dossier des aires protégées. Vous savez que le Québec est extrêmement en retard par rapport au reste du Canada et par rapport au reste du monde en termes d'aires protégées.
On a un objectif à 8.
La moyenne mondiale est de 12%. En 2000, on s'est fixé l'objectif de 8% en 2005. Nous sommes en 2005 et où est-ce qu'on est en ce moment? 3,4%. 3,4% puisque cet été, on a eu des annonces de 0,4% par le ministre Mulcair. C'est des annonces de 6700 km² qui sont sorties au mois de juillet. Évidemment, applaudies par les groupes environnementaux puisque à chaque fois qu'on crée des aires protégées, on s'assure de la protection d'un certain patrimoine écologique, d'une certaine, une certaine superficie du territoire québécois pour la protection de la biodiversité. Et évidemment, les villégiateurs, les chasseurs, les pêcheurs vont pouvoir être dans ces milieux-là et ne pas subir les effets de l'industrie forestière, de l'industrie minière et hydroélectrique.
Et une grosse partie, on le rappelle, de ces aires protégées-là sont dans le Grand Nord québécois également.
Pas ces annonces-là, c'est ça qui est intéressant. La plupart
étant en forêt boréale. Ah non, je parlais du pourcentage global.
Exactement. Vous savez que le gouvernement en ce moment parle de 5,8% d'aires protégées, tandis que les groupes environnementaux parlent de 3,4%. Eh bien, le gouvernement considère deux immenses aires de mise bas du caribou dans le Grand Nord québécois qui sont protégés seulement 2 mois par année. En fait, c'est des aires qui sont protégées seulement quand le caribou accouche et le reste du temps, n'importe quelle industrie minière pourrait aller faire son exploitation. On considère aussi toute l'île d'Anticosti comme une aire protégée quand, dans le fond, il y a beaucoup d'exploitation forestière, d'exploration gazière et pétrolière. Donc, les groupes disent au gouvernement, vos chiffres sont de la foutaise, vous n'êtes pas reconnus au niveau international. Là, on parle vraiment de 3,4%. Donc, c'est extrêmement désastreux comparé à 11% en Ontario, 12% en Colombie-Britannique. On tarde et on est en 2005, donc on a repoussé nos objectifs jusqu'en 2008 pour atteindre ce fameux 8%.
Mais on y regardera de plus près tout au long de l'année. Un autre dossier, parlons de territoire, un autre dossier par contre qui a été applaudi cette fois-ci, le ministre Mulcair s'est prononcé sur les milieux humides et ça a fait la joie de certains.
Ben oui, ça a bougé beaucoup sur le dossier des milieux humides. Vous aviez vu rapidement plusieurs constructeurs immobiliers, surtout à Laval, on a vu ça le dossier exploser dans les médias. Les les constructeurs qui se dépêchent à faire du remblaiement, à construire, parce que le ministre Mulcair a dit qu'il allait déposer un projet de loi en automne sur la protection des milieux humides. Malheureusement, cette annonce-là a provoqué justement l'accélération, et donc les groupes ont demandé un moratoire. Et puis, c'est M. Mulcair qui a réagi au mois d'août, carrément en ordonnant la remise à l'état originel d'un milieu humide à Laval. Donc, il a carrément dit à l'entrepreneur, vous allez payer pour remettre ce milieu humide-là en état et vous assurer que tout est bien clean, parce que vous êtes complètement contre la loi de protection à l'environnement.
Donc, comment on remet un milieu humide en état?
On déremblait, on déconstruit, on remet de l'eau, de la vase et des grenouilles et on espère que ça prenne.
Avec le temps, tout est possible. Comme ça a été vraiment un gros dossier cet été. C'est sûr que ça a bougé beaucoup aussi au niveau de l'industrie forestière. Je ne sais pas s'il me reste deux petites secondes pour parler de ça.
Deux petites secondes.
Il y a eu des fermetures d'usines. Tembec a fermé 3 usines. Ça a frappé dur. Puis de plus en plus, on voit que la tension monte en région. Mais ce qui est intéressant, hier, une grosse nouvelle, Tembec qui annonce la première certification FSC. FSC qui est le Forest Stewardship Council, qui est vraiment la certification environnementale reconnu à travers le monde. Tous les groupes environnementaux poussent pour cette certification-là puisqu'elle est très exigeante. Eh bien, Tembec au Québec, premier territoire forestier public certifié en Abitibi-Témiscamingue, on lève notre chapeau.
Parce qu'il y en avait avant, mais c'était des territoires privés.
Il y a une forêt certifiée FSC au Québec qui est en territoire privé, effectivement, et de très petite superficie. Ontario, Colombie-Britannique, c'est déjà avancé comme dossier. Ici au Québec, encore une fois, on traîne la patte. Et pourquoi? Le gouvernement met des embûches à la certification. On a plein de règles désuètes qui sont complètement... qui vont carrément à l'encontre de la certification forestière, certification environnementale, ce qui est désolant.
Mais on a eu des nouvelles qui sont sorties au niveau, entre autres, des feux de forêt au début de l'été, qui illustrent super bien la façon dont on a de voir notre forêt au Québec. On a vu des grands titres qui disaient « Les feux de forêt de l'été 2005, c'est l'équivalent d'une année complète de coupe ». Qu'est-ce qu'on peut penser à ça? Oui, c'est beau, la façon première, c'est de penser qu'il y a des jobs qui vont écoper de cette situation-là. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que annuellement au Québec, on coupe à l'équivalent d'une catastrophe naturelle. C'est ça que ça veut dire.
C'est vrai que vu comme ça...
Entre autres. Mais entre autres. Ce qui est encore pire, c'est que ce bois-là qui a été brûlé, ça a été la manne pour l'industrie.
Ah, tout à fait, parce que c'est pas, il n'est pas régi.
Aucun règlement. Et puis, on a tout compensé, justement, la diminution de 20% qu'on imposait a été compensée par les feux. Donc, n'importe qui, Jean-Claude, n'importe où, pourrait dire, moi, je vais aller sacrer le feu en forêt, je vais m'assurer d'avoir la récolte en bois pour la prochaine année. Mais ça, c'est extrêmement dangereux comme situation.
Mon Dieu, je suis choquée.
S'il vous plaît, à la maison, ne faites pas cela.
Non, s'il vous plaît, à la maison, ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'on retient dans ces deux dossiers-là au Québec cette année? Parce que là, c'était très Québec, nos deux nouvelles ici. Bon, c'est sûr qu'on donnait l'idée des études qui ont été faites ailleurs dans le monde, mais qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous pensez de la position du gouvernement? Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine logique puis qu'il y a un intérêt vraiment de ramener les dossiers environnementaux à l'agenda?
La foresterie, c'est un truc très particulier au Québec. C'est un des seuls milieux au niveau des ressources humaines qui implique pratiquement uniquement deux acteurs seulement. Le gouvernement qui fait de l'argent avec sa forêt et l'industrie qui fait de l'argent en allant couper la forêt. Donc, les deux groupes les plus forts là-dedans tirent du même côté. Alors que quand on voit les cours d'eau, quand on voit certaines industries minières qui sont plus près d'autres utilisations du territoire, on a une répartition des pouvoirs qui est peut-être un peu plus favorable à une prise en compte, je dirais, intelligente du problème. Mmh. Mais là, on a deux groupes, le gouvernement et l'industrie forestière, qui souvent ont intérêt à tirer dans le même sens.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ta position, Nicolas, puisque en 2004, vous savez que le gouvernement québécois a payé pour se faire couper ses forêts. On est dans un non-sens. Je pense qu'on est en train de réévaluer carrément la gestion forestière et aussi l'adaptation du gouvernement face à ces phénomènes extrêmement dynamiques. On parle de changement climatique, on parle d'exploitation forestière. Il faut qu'on s'adapte à ça. Et puis, le gouvernement est une machine lourde et lente, et ça paraît.
Et moi, je suis doublement pas d'accord, en fait. Je suis pas seulement pas d'accord sur le fait que tu n'étais pas d'accord, mais sur l'histoire des deux intervenants, je pense qu'il faut rajouter un autre intervenant qu'on oublie parfois parce que, justement, on les voit pas tous les jours, mais ça s'appelle les groupes environnementaux. Et en ce sens, il y a quand même certaines personnes qui travaillent sur la question de la forêt au Québec, et on vous mettra un lien pour la Société pour la nature et les parcs et leur campagne sur la forêt boréale, parce que, justement, il faut encourager ce genre de groupe qui tente de créer un contre-pouvoir et à savoir s'ils le font ou pas, ce sera à suivre après la pause.
J'espère qu'ils deviennent un troisième joueur réellement prise en compte à sa pleine capacité.
Ben, Richard Desjardins a fait quelque chose à quelque part, je crois.
C'était un film, d'ailleurs, j'aimerais dire, qui va justement peut-être falloir vraiment faire preuve d'imagination pour amener les gens à se préoccuper de ces questions-là, peut-être autrement, de regarder ces problèmes-là avec une autre lunette, notamment en termes de perte d'emploi, parce que c'est sûr que quand on parle de perte d'emploi, c'est toujours un peu inquiétant, mais il va falloir faire preuve d'imagination dans ce dossier-là et dans plein d'autres dossiers. Au retour, on vous parle d'un autre dossier où est-ce qu'il va falloir faire preuve d'imagination, celui du fleuve Saint-Laurent.